Radio Okapi. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au Nord Kivu, la population de Sake et ses environs exprime son désarroi de vivre entre les bombes et la famine dans une région devenue le théâtre des combats à l'arme lourde entre les M23 et les FARDC. Ses habitants demandent aux autorités de sécuriser la population et d'assister les déplacés en errance dans la région. Effondrement depuis hier du pont Ituri qui relie le territoire de Beni dans la province de Nord Kivu à celui de Mambasa en Ituri. Une situation qui inquiète les acteurs sociaux et politiques. Des agents de l'État commis au contrôle des tonnages affectés sur place sont soupçonnés de fermer les yeux sur le poids des camions. L'invité de ce journal est la présidente de la fondation Tungane Mkono, autrement dit Unissons-nous. Bernadette Tokwaoulou Aena, actrice politique, est la première Congolaise à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Voilà pour le titre. Avant d'aller plus loin, sachez qu'une lueur intense a été constatée hier lundi soir autour de 18h locales au Nord Kivu sur le cratère du volcan Nyamulagira, ce qui a fait croire à la population de Goma et de Nyiragongo à une entrée en éruption de ce volcan. Dans un communiqué officiel, l'observatoire volcanologique justifie ce phénomène par un mouvement intense des magmas à une faible profondeur à l'intérieur du cratère de Nyamulagira. Pour sa part, le gouverneur militaire, à travers son porte-parole, appelle au calme. Les propos du lieutenant-colonel Guillaume Ndike ont été recueillis ici par la presse du gouvernorat.
Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province, porte à la connaissance de la population de Goma et des environs que ce lundi 13 mars, à partir des 18h, temps local, les services spécialisés de l'Observatoire volcanologique de Goma lui ont fait part d'une activité de magma à des faibles profondeurs vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Eu égard à cela, l'autorité provinciale rassure à tous et à toutes qu'elle a dit activité n'a aucun impact sur la ville de Goma. À cet effet, l'autorité provinciale appelle toute la population au calme et à vaquer librement à ses occupations.
À présent, les détails de ce journal au Nord Kivu. Les habitants de Sake et ses alentours expriment leur souffrance causée par le fait d'être obligés de vivre dans une région devenue le théâtre des combats à l'armée lourde et autres bombardements du conflit qui oppose le M23 appuyé par le Rwanda et les FARDC. Selon eux, la situation est difficile car les bombardements font des victimes et causent d'énormes dégâts collatéraux alors que Sake héberge déjà des milliers de déplacés en provenance de Masisi. Ses habitants demande aux autorités de sécuriser la population et d'assister les déplacés en errance dans la région. Des détails avec Sifa Maguru.
Le problème que nous avons, nous les habitants de Sake, mais aussi les déplacés, c'est les bombes qui sont larguées en désordre dans la cité. Elles blessent les gens et détruisent les maisons.
Comme l'explique cet habitant, les affrontements récurrents aux alentours de Sake, notamment sur la colline Trois Antennes, font accroître la psychose au sein de la population qui ne sait pas où aller.
Je n'ai pas où aller. Et ceux qui partent pour Goma ou Minova n'ont aucune assistance. Et je me demande pourquoi laisser mon village. Les rebelles ne sont pas encore là. Et au regard de la souffrance d'ailleurs, je me dis autant mieux mourir chez moi.
Un autre habitant demande au gouvernement d'assister sa population qui est obligée de se déplacer à plusieurs reprises à cause des affrontements et l'incertitude du lendemain.
Que le gouvernement assiste sa population avec de la nourriture, les médicaments, mais aussi des abris, parce que beaucoup de gens dorment sous la pluie, sans couverture et ne savent pas quoi faire.
Selon plusieurs témoignages, la population de Sake a enregistré au moins 16 bombes seulement entre vendredi et samedi dernier. Ces incidents ont fait 4 morts et 6 blessés graves, ainsi que des maisons détruites. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Sur le terrain des opérations, on a noté une accalmie depuis plusieurs lundis matin dans les différentes lignes de front dans le territoire de Masisi, notamment autour de Sake. Selon plusieurs sources dans la région, des éléments du M23 n'ont pas été visibles dans certaines entités qu'ils occupaient dans ce territoire. Les causes de ces retraits sont diversement commentées. Dans la chefferie de Bachali, ils ont quitté la localité de Mouesso vers 0h, amenant avec eux leurs malades qui étaient internés à l'hôpital de Mouesso, ainsi que quelques membres des communautés civiles dévouées à leur cause. Ils seraient partis à Kichanga, alors que d'autres éléments seraient positionnés à Mongozi, Busumba et Kirumbu, aux alentours de Mouesso, affirment ces sources. Elles ajoutent que peu après, ce sont les Maïmaï et les Nyatura qui ont investi Mouesso et quelques autres villages très proches. De son côté, le député provincial Kiangi Kiamwami, élu de Walikale, encourage et salue toutes les démarches menées par le chef de l'État en vue de ramener la paix au Nord Kivu. Cependant, ce député s'interroge sur l'impact des mouvements de déploiement des armées étrangères qui continuent à observer dans la province du Nord Kivu. Il parle d'au moins une dizaine de pays qui agissent sous différentes casquettes, sous-régionales, régionales et internationales. Cet élu de Walikale demande au chef de l'État de clarifier à sa population meurtrie sur la mission proprement dite assignée à chacune de ses forces. Le député Kiangi Kiamwami est au micro de Denis Lukeso.
C'est depuis une certaine période que nous assistons à des mouvements de déploiement des militaires des armées étrangères dans la province du Nord Kivu. Nous en comptons aujourd'hui une dizaine. Elles agissent soit sous la casquette de la MONUSCO, soit de l'EAC et bientôt de la SADC. Nous comptons par exemple des Indiens, des Marocains, des Uruguayens, des Sud-Africains, du Guatemaltèque, des Malawites, des Ougandais, des Burundais, des Kenyans et bientôt des Sud-Soudanais et des Angolais. Goma est devenue la capitale mondiale des armées étrangères. C'est la ville des armées du monde. Cependant, on n'a pas assez d'informations sur les termes de référence et sur leurs missions. Nous ne savons comment vivre avec, pour combien de temps, à quel niveau elles vont devoir collaborer entre elles. Pire encore, on n'a pas d'informations sur l'impact de la présence de toutes ces armées dans la région, sur le plan social, économique, politique, humanitaire, sécuritaire et des droits de l'homme. Au regard des plaintes et des craintes émises par les populations civiles, on aurait voulu que le chef de l'État et l'Assemblée nationale nous donnent assez d'informations sur la présence de toutes ces armées dans la province du Nord Kivu.
Rappelons que l'Angola a aussi annoncé le 11 mars dernier que Luanda allait envoyer une unité militaire en RDC. Au Sud Kivu, poursuite de la mission de l'équipe de la coordination nationale du PDDRC, conduite par son chef Tommy Tambwe Ushindi dans la province du Sud Kivu. Dans la ville et le territoire d'Uvira, la délégation a visité dimanche dernier plusieurs sites de désarmement, de mobilisation, réinsertion professionnelle et de réintégration. L'objectif était de se rendre compte de la viabilité de ces sites, des détails avec Fiston Goma.
La délégation du PDDRCS a reçu des explications sur les différents projets prévus pour l'encadrement et la formation devant faciliter la réinsertion communautaire des ex-combattants. C'est entre autres des travaux de réhabilitation et d'ouverture de deux axes routiers devant désenclaver les moyens et au plateau d'Uvira. L'un devra partir de Runingu vers Marungu, l'autre de Katobo vers Bijombo et Muramvya et un autre entre Kijaga et Kirungu. Ces projets financés par l'OIM pourraient impliquer près de 1000 personnes. L'inspecteur en charge de l'élevage du territoire d'Uvira a expliqué les potentialités de quelques sites de regroupement des ex-combattants visités par la délégation. Eli Kijanda.
Les avantages de Bouguera n'est que la ferme a 500 hectares comme superficie. Et il a une opportunité parce que c'est une ferme à vocation agricole. Et la grande partie de cette ferme est utilisée pour l'écriture de riz. À côté de la ferme, il y a déjà une usine qui est là, du PVA, projet volontariste agricole, qui est à côté de la ferme. Là, il y a l'opportunité, on peut faire le riz et on peut vendre facilement le riz.
Après cette visite des sites, le coordonnateur national du PDLRCS, Tommy Tambwe Ushindi Rudima, a sensibilisé la population et les partenaires locaux sur la mise en œuvre du programme, appelant les groupes armés à s'engager dans les processus. D'Uvira, Fiston Goma Mayaba, la radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, le Scolastica, une maison de formation des futurs prêtres, a été attaquée dans la nuit de dimanche, hier lundi, par 6 hommes armés en tenue civile. Ils se sont introduits par effraction au bureau du curé. Ils l'ont menacé et ont pris de l'argent et autres biens de valeur. Ils ont traumatisé les séminaristes et ont tenté d'enlever les curés après avoir tiré plusieurs coups de feu. Alertés par ces détonations, les policiers en garde à côté au pavillon des enfants en rupture familiale sont arrivés en répliquant, ce qui les a fait fuir. Le père Patrice, économe provincial des prêtres du Sacré-Cœur, pense que les assaillants ne seraient autres que des personnes qui chercheraient à spolier leurs concessions. Le père Patrice a été joint par Jacques Moukonkolé.
C'est par des menaces là, les mots disant que Toroki Misabino Awa. Quoi cette parole? Parce que nous savons que nous sommes presque en difficulté avec un groupe de malfaiteurs depuis pratiquement 2 ans, depuis 2021, où il y a eu un faux jugement monté de toutes pièces en complicité avec certains auxiliaires de justice ici à Kisangani, qui ont fait sortir un jugement opposant deux individus dont nous ignorons même leur provenance, un qui réclamait sa concession, et le jugement est sorti, le monsieur a gagné. Malheureusement, là où on vient exécuter le jugement en question, c'est sur notre terrain. Avec un monsieur qui a un SR97, nous avons un SR4, 4300 quelques, mais c'est nous qu'on vient. Depuis là, c'est vraiment, comme on dit, trop de pression, trop d'attaques et tout, malgré les efforts que nous sommes en train de faire au niveau de la justice, au niveau administratif, même au niveau politique aussi, pour que nous puissions revenir. Mais il y a toujours un peu ces résistants. Commençons d'abord par dénoncer cela. Et nous voulons que l'État, les autorités puissent prendre leurs responsabilités.
Rappelons que depuis janvier dernier, la ville de Kisangani fait face à une insécurité chronique qui ne dit pas son nom. Des vols en main armée sont devenus monnaie courante et la population ne sait plus à quel sens se vouer. Pendant ce temps, au Kasaï oriental, deux présumés kidnappeurs d'enfants ont été présentés le week-end dernier au gouverneur de province. D'après le commissaire provincial de la police, ces deux malfrats ont été surpris avec 5 enfants, dont 3 en partance pour Lubumbashi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ce réseau de présumés kidnappeurs d'enfants est composé d'un père et de son fils. Ils ont tous été arrêtés la semaine dernière par les services de sécurité et présentés le week-end auprès du gouverneur de province par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Roger Singa affirme qu'un des présumés kidnappeurs a été arrêté à l'aéroport pendant qu'il tentait de voyager sans autorisation avec 3 enfants mineurs dont il n'est pas tuteur. Après interrogatoire par les services de sécurité, le présumé kidnappeur a donné l'adresse de son père qui gardait dans sa cachette 2 autres enfants qu'il devrait faire voyager la semaine prochaine. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya, a salué le travail effectué par la police. Il a demandé aux parents de bien protéger leurs enfants et d'alerter rapidement en cas de disparition d'un enfant. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Des organisations de la société civile et des acteurs politiques s'inquiètent des conséquences de l'effondrement du pont Ituri. Cet édifice qui relie les territoires de Beni dans la province du Nord Kivu à celui de Mambasa en Ituri s'est effondré hier lundi matin. Diverses sources rapportent qu'il s'est affaissé lorsqu'un gros camion visiblement surchargé ramenant de la marchandise de Beni pour Kisangani effectue la traversée. Cet ouvrage érigé sous la RN44 permettait en effet d'écouler des produits vivriers sous les grands centres de consommation à travers le pays. Des agents de l'État commis au contrôle des tonnages affectés sur place sont soupçonnés de fermer les yeux sur le poids des camions. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Construit en 1935, ce pont présentait déjà des signes alarmants. C'est la raison pour laquelle, en début 2022, il avait été partiellement réhabilité à Pronton. À l'issue des travaux, seuls les véhicules transportant des bagages de moins de 15 tonnes étaient autorisés à y passer. Le service de transport et voies de communication avait été chargé de faire respecter cette mesure. Cela n'a pas été fait, affirme Ezekiel Kambalé, élu du territoire de Mambasa.
À partir de cette route, nous recevions les haricots qui venait du Nord Kivu jusqu'à Kinshasa. L'administrateur du territoire y avait déjà affecté des agents de Transcom dans l'objectif de contrôler régulièrement les tonnages et décharger les véhicules qui dépassent 20 tonnes. Mais malheureusement, les agents qui étaient commis sur terrain ont transformé cette décision en une taxation. Un véhicule qui vient avec 50 tonnes, 60 tonnes, 100 tonnes, 150 tonnes, le véhicule paye 150 dollars, 100 dollars, 200 dollars et le véhicule passe sans problème. Les mesures doivent être prises contre tous ces agents qui étaient affectés sur terrain.
Cet acteur politique indique aussi que l'effondrement de ce pont risque d'handicaper les opérations militaires car c'est une région où les FARDC combattent des rebelles d'ADF Bounia. Jean-Claude Lucky, Dile Radio Okapi.
L'Université pédagogique nationale, en partenariat avec Astria Learning, une société américaine spécialiste dans les enseignements à distance, lance des enseignements en ligne. C'est la toute première université de la RDC qui va ainsi dispenser des cours à distance pour le master et les doctorats. Reportage Junior Kamunga Richard.
La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, des représentants de plusieurs universités et instituts supérieurs de la ville-province de Kinshasa, ainsi que du président de la société américaine Astra Learning. Ce dernier, Jeff Broder, définit ici les grandes lignes de la collaboration entre deux institutions.
Cette collaboration marque une étape importante pour Astra Learning et pour la population de RDC. Quand nous visons à fournir une meilleure accessibilité à l'éducation, de qualité grâce à la technologie et amener le pays au même niveau que le reste du monde.
Anastasie Masangabaponda, rectrice de l'IPEN, exprime sa joie de voir son institution devenir la première université choisie pour piloter les enseignements à distance en République démocratique du Congo pour les masters et les doctorats.
Le projet que nous avons l'honneur de lancer officiellement aujourd'hui est une énorme innovation pour notre pays, mais surtout pour l'Université pédagogique nationale, notre alma mater, un des établissements pilotes du système d'enseignement supérieur et universitaire congolais.
Ce jeudi, Astra Learning procédera à l'ouverture de la bibliothèque numérique à l'Institut pédagogique national avec plus de 17 000 livres.
Actualité internationale.
En Tunisie, le Parlement a tenu hier lundi sa première séance depuis 2 ans sans aucun média privé, 11 ans après la révolution. Ce Parlement a élu son président, le candidat attendu et ancien bâtonnier Ibrahim Bouderbala, fidèle aux idées du président Kais Saied.
L'invité.
L'invité de ce journal est la présidente de la Fondation Tuungane Mkono, autrement dit Unissonou, Bernadette Tokwaoulou Aena, actrice politique, est la première Congolaise à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Dans son entretien avec Paul Matendo, elle explique les motivations de son choix.
Madame Bernadette Tokwaoulou Aena, bonjour.
Bonjour.
Le mois de mars, comme vous le savez, est dédié à la célébration du droit de la femme. Quelle place vous donnez particulièrement à la femme congolaise?
Ce mois de mars de la femme, je suis comme toutes les femmes congolaises. Nous obéissons tous au même mot d'ordre, le passé dans la méditation. Parce que nous savons que nos mamans à l'Est subissent des viols, des massacres, et que notre pays à l'Est est en voie de balkanisation et notre population est en débandade partout jusqu'à se réfugier dans des camps aux abords de Goma. Donc, la situation de la femme est catastrophique, nous sommes solidaires.
Bernadette Tokwaoulou Aena est la première femme congolaise à annoncer sa candidature à la présidentielle prévue en décembre prochain. Quelle est votre motivation?
La première motivation, c'est par rapport à la situation de l'Est. J'ai dit, mais notre pays est en voie de balkanisation, il faut faire quelque chose et j'ai décidé de présenter ma candidature. Ma candidature a deux visions. D'abord, faire en sorte que la souveraineté de notre pays soit totalement rétabli, que toutes les troupes étrangères quittent notre pays et que nous retrouvions la paix. Et l'autre voie concerne la situation de notre pays, en particulier la situation sociale. Et le volet social est terriblement important parce qu'un peuple affamé n'a pas d'oreille. Et nous ne pourrons pas rétablir la souveraineté totale de notre pays si notre peuple ne comprend pas que c'est à lui de se lever. Vous avez l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par voie de référendum et par les élections. Donc, si les personnes qui représentent le peuple n'ont pas été capables de protéger le pays contre la balkanisation dans les accords de l'EAC, s'ils n'ont pas été capables de donner au pays les moyens nécessaires pour que nos FARDC puissent rétablir notre souveraineté, alors nous pouvons dire que c'est nous, le peuple congolais, qui nous sommes responsables. C'est pour ça que ma candidature aura pour objet d'apprendre au peuple congolais quels sont ses droits, les conscientiser.
Vous vous exprimez souvent dans certains forums sur la violence armée. Et quelle lecture faites-vous de l'agression de la RDC par le Rwanda?
Le Rwanda, depuis 1994, a un plan de balkanisation de notre pays. Et le président Kagame n'abandonne pas ce plan. Et pire, il a le soutien de la communauté internationale qui pense en quelque sorte que les Congolais ne sont pas des gens sérieux qui puissent garder la souveraineté de leur pays. Alors nous devons rétablir la situation, nous devons arriver au changement. Vous savez, les élections vont arriver. Et les élections, la plupart des hommes politiques pensent que les élections, c'est pour le remplacement du régime d'un régime par une autre. Non, ces élections-ci, dans la situation du pays, sont des élections pas pour le remplacement d'un régime par un autre. Ce sont des élections pour le changement, pour que le peuple puisse exercer ses droits.
On venait de parler tout à l'heure du l'EAC en tant que candidate. À quoi est-ce que la RDC peut s'attendre de cette force de l'EAC?
Rien du tout. Un peuple, pour qu'il soit fort et souverain, doit avoir une armée forte, doit pouvoir se défendre seul. Moi, je veux que nous ayons une armée forte, une armée qui soit casernée, une armée bien organisée, équipée, parce que et les recrues en formation, et les réservistes, et les soldats sont des gens qui doivent être bien payés pour que nous ayons une armée forte et une armée permanente, pour que plus jamais aucun voisin ne vienne de nous menacer. Maintenant, s'agissant des troupes de l'EAC, un soldat, c'est un soldat. Vous pensez qu'un soldat kényan est plus compétent qu'un soldat congolais? Il y a même les soldats du Sous-Soudan là qui n'arrivent même pas à résoudre leurs problèmes de guerre civile, et vous pensez qu'ils sont plus compétents que les Congolais? Notre pays va payer 100 millions de dollars tous les 6 mois ou tous les 12 mois, donc 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars par an pour ces troupes de l'EAC. Vous pensez pas qu'avec 100 millions de dollars, nous sommes capables d'équiper une division et quelques brigades pour aller rétablir l'ordre dans l'Est? Sinon, nous n'aurons pas la paix. Et ce n'est possible qu'avec notre armée. Je pense que toutes les troupes de l'EAC doivent quitter notre pays.
Madame Bernadette Tokaouloaïna, merci beaucoup.
Et c'était l'invité de ce journal, la présidente de la Fondation Tuungane Mkono, Bernadette Tokaouloaïna, s'entretenait avec Paul Matendo. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.